Voix Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
Parole de femme.
La fondation Panzi du docteur Denis Mukwege à Bukavu, dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo, a rendu un hommage sur son site internet à sa représentante aux États-Unis, Nita Evele, décédée le 16 septembre à l'âge de 47 ans. Nita Evele était présidente du conseil d'administration de la fondation, dont l'hôpital dans l'est de la RDC prend en charge des centaines de femmes et filles victimes de violences sexuelles. Madame Evele était une figure importante de la diaspora africaine qui a œuvré pour la démocratie, les droits des femmes et de la jeunesse dans son pays. Je vous propose d'écouter des extraits d'un entretien LMF avec cette militante hors pair réalisé en 2017 dans nos studios à Washington sur le thème de l'implication des femmes et des jeunes dans la résolution des conflits.
À Panzi Foundation ou à l'hôpital de Panzi, on sait exactement ce que c'est la guerre et le prix que les femmes et les enfants payent quand un pays est déstabilisé et il y a des rébellions récurrentes. En tout cas, au Congo, les nombres sont assez élevés. On parle de plus de 500 000 femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et presque 5 millions de morts pendant les rébellions. Et la dernière fois qu'on a compté les morts, c'était en 2004. Donc, depuis 2004 jusqu'à maintenant, on sait que les nombres ont bien augmenté et que la guerre en RDC a fait beaucoup plus de victimes que dans n'importe quelle autre guerre civile en Afrique.
Est-ce que il y a des cas où ces femmes elles-mêmes qui ont été les victimes, comme vous l'avez dit, sont impliquées directement après dans les processus de paix, les discussions au niveau local, etc.
Oui, absolument. À Panzi, c'est que l'hôpital essaie de faire après que la femme a été prise en charge physiquement, ça veut dire elle est passée sous la chirurgie où on a essayé de réparer les blessés. Elle reçoit des cours. Elle reçoit, si elle n'a pas eu une éducation formelle, elle reçoit des cours pour apprendre à lire. Et en même temps, elle reçoit des cours d'éducation civique. Ça veut dire qu'on lui apprend ses droits et devoirs comme citoyen dans la société pour justement revendiquer ses droits. Bien sûr, pendant les traités ou les accords qui ont été signés, les femmes ont tout essayé pour participer. Et on n'a pas pris en considération les groupes des femmes, malgré que on sait très bien que les femmes ont participé dans beaucoup de programmes. Elles ont été ministres, elles ont été députées, elles ont prouvé au monde qu'elles pouvaient participer aux accords, mais elles n'ont pas été considérées comme partenaires dans les pourparlers. Et c'est là le problème, hein, parce qu'elles ont été victimisées. Elles sont quand même la majorité dans la société, mais malheureusement, elles ne sont pas prises en considération quand on arrive à mettre en place des accords. Et ça, c'est parce que quand on arrive à des accords, ça veut dire que il y a eu une guerre et pratiquement personne n'a gagné. Et les personnes qui ont commencé les guerres, donc les belligérants, viennent pour essayer de partager le pouvoir. Et c'est souvent ce qui se passe. Et comme malheureusement ou heureusement, je ne sais pas dire, les femmes ne commencent pas les rébellions ou elles ne sont pas partie prenante de guerre. Et donc elles ne sont pas belligérantes. Donc elles ne sont pas prises en considération pendant les partages de pouvoir. Souvent elles ne se battent pas, elles sont victimes en général. Donc quand on arrive à la table, bien sûr, les personnes qui croient qu'ils sont arrivés à la table par leur effort de guerre, ils ne veulent pas partager ce pouvoir.
Nita Evele soutenait les mouvements citoyens de la jeunesse qui luttent pour la démocratie dans son pays. Dans cette interview de 2017 à LMF, elle disait toutefois regretter qu'il soit généralement récupéré par les politiciens ambitieux.
Tous ces mouvements mouvements-là, Lucha, Yanamar, Filimbi, tous ces mouvements de jeunes, est-ce qu'ils sont vraiment indépendants? Est-ce que c'est vraiment la jeunesse qui se lève, je vais dire la jeunesse apolitique, ou est-ce qu'ils sont récupérés à droite et à gauche?
Oh, absolument. Quand ils arrivent à créer leur mouvement, c'est vraiment des jeunes qui veulent voir un changement. Bien sûr que c'est difficile dans des dictatures, par exemple, que des jeunes sont pris au sérieux. Pourquoi? Parce que elles n'ont que leur corps comme arme et ils viennent avec des idées pacifiques en général. Mmh. Et c'est très difficile dans les contextes africains, par exemple, parce que on sait bien qu'il y a répression, on les arrête, on les met en prison. Et ils ont vraiment pas.
Donc
vraiment,
en fait, eux, voilà. Ils n'ont même pas été dans les discussions des derniers accords. Ces jeunes-là?
Pas du tout. On les a pas pris en considération parce que, comme je dis, les gens viennent partager le pouvoir. S'il y a plus de monde autour de la table, eh ben le pouvoir devient de plus en plus petit. Et ils ne veulent pas augmenter le nombre des gens qui vont réclamer de postes ou quoi que ce soit, parce qu'ils veulent partager le pouvoir le plus possible entre eux, entre belligérants, ou entre les personnes, les politiciens par exemple. Et comme la Lucha et les Filimbi et les Yanamar et tout ça, ils sont dans la rue et souvent récupérés par l'opposition en général, parce que l'opposition a besoin des jeunes pour mobiliser le peuple. Donc une fois que la mobilisation est faite et qu'ils sont pris en considération, l'opposition sur la table ne veut plus partager le pouvoir avec les jeunes. Et c'est souvent ce qui se passe. Et c'est vraiment dommage parce que
c'est une grosse frustration pour la jeunesse.
Absolument.
Une grande déception même.
Très, très, parce qu'ils ont prouvé au monde qu'ils sont capables. Et souvent, c'est des jeunes qui ont fait des grandes études et qui comprennent que l'avenir de l'Afrique, ce n'est plus dans les guerres ou les rébellions. C'est dans la démocratie et que les peuples ont le droit de se choisir leurs représentants.
Est-ce que ça fait peur aux dirigeants africains, ça, justement, cette nouvelle vague qui est pro-démocratie et qui est très instruite?
Absolument, parce qu'une fois que quelqu'un parle des lois et des droits et des revendications qui sont dans la loi et la constitution, ça fait peur aux politiciens parce que ça veut dire qu'une fois que ces jeunes ou les mouvements qui commencent à éduquer le peuple, aux prochaines élections, si vous êtes dirigeant et vous n'avez rien fait pour la population, il y a plus de chances que vous soyez bouté dehors. Et ça fait très peur aux dirigeants africains qui sont pas très démocratiques et qui ne croient pas vraiment à prendre le pouvoir par la voix du peuple. Et l'opposition qui se voit mis à côté ou se voit perdre la possibilité de prendre le pouvoir n'a souvent plus de choix que de coopérer, comme ça il peut partager le pouvoir. Et ça devient un partage de pouvoir entre politiciens.
C'est très difficile en effet pour les jeunes de ne pas être pris en otage par les uns ou par les autres en effet. Et les femmes, c'est peut-être encore pire, elles sont encore plus marginalisées.
Absolument.
Donc c'est un petit peu optionnel, les femmes, aller un mouvement de femmes, on va dire bon venez, on va vous écouter, mais bon c'est pas
nécessairement vous écouter, vous faites partie, vous devenez un nombre de pression. On veut augmenter le nombre, on dit ok, on a organisé une marche et on a eu un grand nombre de participants, y compris les femmes. Et une fois qu'on est arrivé là où on veut, et bien voilà, il n'y a aucune femme qui partage le pouvoir.
Nita Evele était aimée de tous pour son engagement inlassable en faveur de la justice et de la démocratie, témoigne le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Retour sur cet ancien entretien avec Madame Evele.
Il y a des solutions particulières de la part des femmes pour les sorties de crise qui peuvent être différentes de celles des hommes?
Oui, souvent les femmes ne sont pas là pour leurs intérêts personnels. Mm-hmm. Quand les femmes arrivent à se mobiliser et à s'impliquer dans la politique ou dans les accords, elles viennent parce qu'elles voient l'avenir d'une communauté. Mm-hmm. Souvent, vous les entendez parler des éducations des enfants parce que la femme voit d'abord ses enfants et l'avenir. En Afrique, en général, c'est elle qui le gagne pas de la maison parce qu'elle fait des petits commerces, elle travaille dur pour nourrir la famille et la communauté et elle aimerait voir ses conditions améliorées pour pouvoir justement arriver à nourrir sa famille. Et la femme vient pas pour elle, pas pour prendre le pouvoir en général, mais pour vraiment trouver
des
solutions.
Donc en fait, elle peut avoir même des solutions plus pratiques, plus objectives. Mm-hmm. Elle connaît cette réalité-là à la maison, de toute façon.
Absolument. Et souvent, les hommes, ils sont là parce qu'ils veulent avancer leur cause ou se positionner personnellement.
Ses ambitions,
être ministre, avoir la possibilité d'augmenter ses finances personnelles en général, et pas nécessairement de la communauté. Mais la femme, quand elle vient, elle a vraiment le poids de la communauté sur son dos. Et souvent, quand elle vient pour parler des accords, elle voit tout le monde, elle ne voit pas seulement elle. Et souvent, même quand elle a participé, à la fin, c'est à elle qu'on ne donne pas de position. Et aussi, on lui donne la position la première fois, après on cherche tout pour l'enlever.
Lolita Evele était très active au sein de l'Association des Amis du Congo qui a contribué à financer la première clinique juridique de la Fondation Panzi et dans les survivantes de violences sexuelles à porter plainte contre leurs agresseurs. On revient sur cet entretien avec elle concernant l'implication des femmes dans la résolution des conflits.
Les femmes ont vraiment prouvé au monde qu'elles sont capables de faire tout ce que les hommes font.
Est-ce qu'elles doivent vraiment le prouver?
Elles ne doivent pas le prouver, mais...
On est un peu obligé, c'est ça?
On est obligé d'en parler souvent et justement de corriger l'erreur historique. En Afrique, les femmes n'ont jamais pris la deuxième position. C'est venu avec le système patriarcal que l'Église a emmené en Afrique. L'Afrique n'était pas comme ça. Un exemple simple, chez moi, en République démocratique du Congo, on a des ethnies où c'est la femme qui est le chef de la famille et les enfants prennent son nom. Donc, dans les communautés africaines, avant l'arrivée du colon, on avait des systèmes où les femmes, souvent, vous verrez chez le roi, c'est les femmes qui sont les sages, qui donne des conseils au roi, parce que le roi avait compris que les femmes avaient des idées un peu plus neutres par rapport aux autres. Les femmes ont du mal parce qu'on a justement le système patriarcat et un système qui dit que... C'est le fait de ne pas vouloir partager son pouvoir. C'est vraiment tout est là sur le pouvoir de l'homme.
Nita Evele a fait de nombreux plaidoyers pour l'égalité des chances dans son pays, la République démocratique du Congo, en particulier pour dénoncer les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées pour accéder à des postes décisionnels en politique. La dernière partie de cet entretien avec la militante congolaise décédée le 16 septembre 2021.
Dans le cas de la résolution des conflits, est-ce que la femme aurait tendance à demander plus de partage équitable?
Elle devrait, parce que dans toutes les sociétés, la femme occupe quand même la moitié de la population. Donc elle doit demander d'être partagée également le pouvoir. Et souvent les femmes ont les mêmes demandes quand elles viennent à la table, c'est améliorer le social, améliorer l'éducation.
C'est important pour les femmes parce que ça les soulage.
La santé, voilà.
C'est énorme pour une femme. Absolument. Ne serait-ce que la question de la maternité.
Oui, parce que c'est elle qui tombe enceinte et c'est elle qui doit planifier la famille. Et vous verrez, en Afrique, souvent, quand on donne un poste à une femme, c'est souvent ministre de genre et enfants et famille, parce qu'on pense que la femme ne peut que s'occuper de genre et qu'elle ne peut pas faire autre chose. Et ça n'a rien à voir avec les capacités de la femme.
Aujourd'hui encore, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, les organisations de défense des droits humains s'inquiètent de l'augmentation des violences sexuelles. Parmi ces organisations figure Soti Yamama Mukongomani, qui affirme que la plupart de ces violences sont commises par des hommes armés. Un reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
L'organisation Sauti ya Mama Mukongomani, qui lutte pour les droits des femmes, a récemment publié le nombre des cas de violence dans les différents territoires du Nord Kivu et a dénoncé une augmentation de la violence par rapport à la période où la province était dirigée par des civils. Nelly Lumbulumbu en est sa présidente.
Nous avons senti qu'il y a eu recrudescence des violences. Et là, je vais parler des violences sexuelles et des violences basées sur les genres. Nous pensons que ce sont des situations que nous devons décrier. Je vais donner aussi ici les cas, plusieurs cas de violences sexuelles qui ont été reportés par nos animateurs de terrain. Et je parlerai au niveau de Rutshuru de plusieurs cas, plus de 10 cas de violences sexuelles. À Nyiragongo, nous avons obtenu 8 cas. À Goma, nous avons obtenu 2 cas. Ce sont des choses que nous n'avons pas vues pendant la période normale.
La meilleure solution pour limiter les violences sexuelles serait de mettre fin à l'état de siège et de remettre le pouvoir entre les mains des civils, selon certains militants des droits de l'homme, comme Espoir Mwinuka, qui pense qu'au lieu de ralentir, l'état de siège a aggravé les taux de violence qui a atteint 80% en 2021.
Aujourd'hui, la violence a monté au créneau. Maintenant, la situation commence à être pire qu'avant. La violation grave des droits de l'homme, nous sommes en train d'estimer que ça montait même à plus de 80% en 2021.
Passi Mubalama, militante des droits de l'homme, appelle le gouvernement congolais à fournir encore plus d'efforts pour rétablir la paix au plus vite ce qui permettra de lutter contre ces violences subies notamment par les femmes et les enfants.
Je voulais en fait faire une sonnette d'alarme par rapport à la situation de violation de droits humains qui hausse en cette période où l'État congolais a décrété l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Je voudrais appeler ici les autorités congolaises à prendre conscience du fait que nous, en tant que citoyens et citoyennes, nous avons besoin de la paix. En tant que femmes, en tant que maman, nous avons besoin de la paix.
Le lundi 13 septembre, le président congolais Félix Tshisekedi a présidé une réunion du Conseil national de sécurité pour évaluer l'état des sièges en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri depuis mai 2021. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
La violence sexuelle n'épargne aucun pays de la planète. En Guinée également, l'augmentation du nombre de viols de mineurs préoccupe le gouvernement et les organisations de défense des droits humains. Le club des jeunes filles leaders de Guinée se bat depuis 6 ans contre ce phénomène. Un reportage de Zakaria Camara à Conakry.
Des gendarmes formés à Conakry par le club des jeunes filles leaders de Guinée, une ONG composée d'adolescentes qui lutte contre des violences faites aux jeunes filles. Pour Kadiatou Konaté, présidente par intérim du club, les pratiques doivent changer.
L'importance en fait de cette formation pour d'abord les gendarmes, encore plus nous, c'est de leur permettre en fait de savoir la portée de leur pouvoir, mais aussi de leur importance dans la société. Parce que très souvent, il y a des services de protection qui essayent de faire le travail de d'autres personnes ou encore de régler à l'amiable les cas ou abandonner voire les cas.
Des cas de viol abandonnés aux grandes dames des parents et pour les victimes, aucun mécanisme de prise en charge. Kadiatou Konaté, présidente par intérim du club des jeunes filles leaders de Guinée.
Que c'est très important d'avoir des centres de réinsertion pour les filles, pour plusieurs raisons. Il peut y avoir des viols et que les parents, quand la fille décide d'engager une procédure, les parents ne veulent pas. Donc à un moment donné, on amène la restriction sur la fille. À ce stade, on a vraiment besoin d'un centre d'accueil, d'un centre de réinsertion pour permettre à la fille d'être dans un endroit plus sûr, plus sécurisé.
Avec la mise en place de la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables et les efforts de l'office de protection du JAR, des enfants et des mœurs, plusieurs plaintes sont enregistrées. Cette mère de famille attend le jugement du jeune qui a violé sa fille de 2 ans.
J'ai laissé ma fille avec ma sœur qui se stressait. Et quand je suis revenue du marché, ma fille a commencé à se plaindre et lui qu'elle avait mal. Après les vérifications, on l'a amenée à l'hôpital. On a trouvé que c'était vrai. Le jeune en question qui a violé ma fille, son tuteur était un béret rouge. Donc on l'a appelé, il est venu, il ne s'est pas bien occupé de la chose. Et finalement, j'ai décidé de porter plainte. J'ai appris que le jeune a été relâché.
Depuis quelque temps, les langues se délient sur le viol en Guinée, mais le phénomène va durer si les parents ne prennent pas conscience. Alerte Asma Oba, secrétaire générale du syndicat national des employés de maison.
Ce sont des enfants qui quittent le milieu rural pour les grandes villes. Et ces jeunes filles sont souvent confiées à des personnes ou bien envoyées comme domestiques dans les ménages. Et avant que les parents donnent aux personnes leurs enfants, on leur promet des monts et merveilles. Tandis que sur le terrain, arrivé dans les grandes villes, c'est tout à fait le contraire.
En 2020, 374 cas de viol ont été enregistrés en Guinée, mais il est difficile de dénombrer les victimes et leurs parents qui, à cause des pesanteurs socioculturelles, ruminent leur douleur dans le plus grand silence, loin de tout regard indiscret. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
En Guinée, lors des concertations nationales lancées par le CNRD le 14 septembre, de nombreux représentants politiques et de la société civile se sont exprimés devant le chef de la junte, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Asmaouba, que nous venons d'entendre, secrétaire général du CINEM Guinée, le syndicat national des employés de maison, était parmi une dizaine de syndicalistes, dont quatre femmes, qui ont présenté aux nouvelles autorités le 17 septembre un mémo regroupant les centrales syndicales du pays. Dans cet entretien, elle cite certains points du mémorandum avant de faire le plaidoyer de la présence des femmes dans la nouvelle transition.
Nous sommes sept centrales qui se sont réunies. Nous avons fait un mémo. On a donné des points, ce que nous voulons et qu'est-ce que nous attendons et ce que nous avons proposé. On a fait des lignes montrant certains secteurs, les faiblesses, et nous avons fait des propositions.
Est-ce que vous pourriez éventuellement nous citer deux ou trois points justement qui vous paraissent importants?
Par exemple, nous avons demandé en Guinée, c'est récurrent qu'on licencie les leaders syndicaux dans les entreprises arbitrairement. Et c'est l'inspection générale qui cautionne ça en autorisant les licenciements sans demander un avis préalable, même au syndicat. Il y a beaucoup de lacunes dans le cadre du travail. Il y a longtemps que ça n'a pas été révisé. Nous avons demandé qu'on révise le cadre du travail guinéen. Et dans les secteurs aussi qui n'ont pas de convention collective, nous voudrons aussi qu'on ait des conventions collectives. Si nous prenons par exemple les mines et carrières, il y a beaucoup d'entreprises minières en Guinée actuellement. Mais sur le terrain, ce que les travailleurs sont en train de subir, c'est autre chose. Donc c'est des exemples pareils. Nous avons une convention collective de l'hôtellerie et de restauration, mais malheureusement, l'applicabilité sur le terrain n'est pas effective.
Est-ce que vous allez demander un rôle plus important de la femme dans cette transition?
Personnellement, en tant que femme, épouse et mère, je voudrais demander particulièrement à ce qu'on prenne en compte les femmes dans les postes de décision. Parce que régler ton problème sans toi, ça veut dire que c'est de te mettre encore des problèmes de plus. Et les femmes, vous savez, nous sommes les baromètres de la société. Donc il faudrait nous associer toutes les femmes qui sont capables et qui seront valables pour représenter la jeunesse féminine, pour qu'il y ait un peu de changement pour ce qui concerne à toutes les femmes. Moi, je suis d'accord pour ça. Il y a certains pays aujourd'hui, dans les postes de décision, c'est 50 femmes et 50 hommes. Et tout le monde sait que, plus particulièrement chez nous ici, quand on confie une femme quelque chose, elle va réussir. Parce qu'en général, la femme n'aime pas la honte. En général, la femme, c'est elle qui protège non seulement son mari, ses enfants, et en général, la société. Moi, personnellement, si on me confie quelque chose, je ferai tout pour mériter cette confiance. Quand ton pays a besoin de toi, il faut répondre. Surtout si tu sais que tu es capable d'assumer le poste de responsabilité qu'on te confie. Donc, si moi, on me propose quelque chose, je vais répondre valablement pour aider surtout les femmes et les enfants. En général aussi les travailleurs.
Est-ce que vous pensez que pendant la transition, il sera possible notamment d'améliorer les conditions de travail des domestiques, qui sont en particulier des femmes, hein, et comme on le sait, qui sont très mal payées et qui sont parfois victimes d'abus?
Oui, je l'espère bien. Parce que même avec le régime qui est parti, on avait pris en compte les travailleurs domestiques. Je vais dire pourquoi. Parce que nous qui sommes leaders, qui sommes devant cette couche vulnérable, nous avons été à la hauteur pour protéger ces travailleurs domestiques. La Guinée est le troisième pays qui a ratifié la Convention 189 de l'OIT relative aux travailleurs domestiques. Et nous sommes en train de travailler sur un projet de loi, une loi nationale qui va protéger les travailleurs domestiques. Je pense que si on met l'équivalent de l'Assemblée nationale, on pourra passer cette loi. Ce qui est sûr, les travailleurs domestiques de chez nous sont reconnus et leur travail aussi est reconnu. Nous sommes connus dans tout le pays, à travers les médias surtout, et tout ce que nous faisons, et je pense que elles aussi vont faire la même chose. De toute façon, on va les pousser à le faire.
Asma Ouba, secrétaire générale du Cinéma Guinée, le syndicat national des employés de maison, était jointe à Conakry. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.